Chapitre 3, le principal. Le principal de Repton me fit l'effet d'un petit bonhomme quelconque, aux jambes torses, avec un gros crâne chauve et de l'énergie à revendre, mais peu sympathique. Remarquez, je n'ai jamais eu l'occasion de bien le connaître, car durant tous ces mois et ces années que j'ai passées au collège, je doute qu'il m'ait adressé plus de 6 fois la parole. Peut-être avais-je donc tort de porter ce genre de jugement sur lui. Le plus intéressant, ce qui concerne ce principal, c'est qu'il est devenu célèbre par la suite. À la fin de ma 3e année là-bas, il fut soudain nommé évêque de Chester et parti s'installer dans un palais sur les rives de la Dee. Je me rappelle m'être demandé comment diable un simple maître d'école pouvait d'un seul coup devenir évêque, mais d'autres mystères plus grands encore allaient survenir. De Chester, il fut rapidement promu au rang d'évêque de Londres, et de là, au bout de quelques années, il grimpa de nouveau l'échelle de la hiérarchie pour parvenir au sommet et devenir archevêque de Canterbury. Et peu après, ce fut à lui qu'échut l'honneur de couronner notre reine actuelle à l'abbaye de Westminster, sous les yeux de la moitié de la population mondiale massée devant les écrans de télévision. Tiens, tiens, et c'était l'homme qui administrait les plus féroces raclées aux petits garçons dont il avait la charge. Vous devez maintenant, j'en suis sûr, vous demander pourquoi j'insiste tellement sur les châtiments corporels à l'école. La réponse est simple, je ne peux pas m'en empêcher. Durant toutes mes études, j'ai été horrifié par ce privilège accordé aux maîtres et aux grands élèves d'infliger des blessures, parfois très graves, à de jeunes enfants. Je ne pouvais pas m'y habituer. Je n'ai jamais pu. Il serait, bien entendu, injuste de prétendre que tous les maîtres, à l'époque, passaient leur temps à rouer de coups tous les petits garçons. Ce n'était pas le cas. Quelques-uns seulement. Mais c'était bien suffisant pour laisser chez moi un sentiment d'horreur qui dure encore. Une autre impression purement physique subsiste encore chez moi. Même maintenant, lorsque je dois rester ainsi un peu longtemps sur un banc dur ou une chaise inconfortable, je commence à sentir mon cœur qui bat le long de ces vieilles cicatrices que la canne a imprimées sur mon derrière, il y a bien 55 ans de cela. Il n'y a rien de mal à cingler de quelques coups rapides les fesses d'un petit garçon turbulent. Cela lui fait sans doute le plus grand bien. Mais le principal dont nous parlons ne plaisantait pas quand il sortait sa canne pour administrer une raclée. Il ne m'a jamais battu, Dieu soit loué, mais mon meilleur ami, un Repton, un garçon du nom de Michael, m'a fait une description saisissante de l'une de ces cérémonies. Michael reçut l'ordre de baisser son pantalon et de s'agenouiller sur le divan du principal, le buste courbé dans le vide au bout du divan. Le grand homme lui administra alors un coup terrifiant. Ensuite, il y eut une pause. Le principal posa la canne et entreprit de bourrer sa pipe de tabac. Il commença également à sermonner le jeune garçon agenouillé, le mettant en garde contre le péché et la mauvaise conduite. L'instant d'après, il ramassa la canne et un deuxième coup violent s'abattit sur les fesses tremblantes. Le bourrage de pipe et le sermon reprirent alors pendant encore 30 secondes, puis vint le troisième coup de canne. L'instrument de torture fut alors une fois de plus déposé sur la table et le principal sortit une boîte d'allumettes. Il en craqua une et approcha la flamme du fourneau de sa pipe. La pipe ne s'alluma pas correctement. Un quatrième coup fut administré, tandis que le sermon continuait. Ce processus lent et terrifiant se poursuivit jusqu'à ce que 10 coups se soient sauvagement abattus, et pendant tout ce temps-là, tout en allumant sa pipe, en craquant des allumettes, le principal poursuivit sans jamais s'arrêter son sermon sur le mal, les mauvaises actions, le péché, même pendant qu'il frappait. À la fin, le principal sortit une cuvette, une éponge et une petite serviette propre et ordonna à sa victime de laver le sang avant de se reculotter. Vous étonnerez-vous alors que la conduite de cet homme m'ait désarçonné? C'était à l'époque un clergyman ordinaire en même temps qu'un principal. Et, assis dans la pénombre de la chapelle du collège, je l'écoutais parler dans son prêche de l'agneau de Dieu, de la miséricorde, de la clémence et ainsi de suite, et mon jeune esprit sombrait dans une totale confusion. Je savais parfaitement que, la veille même, ce prédicateur n'avait fait montre ni de clémence ni de miséricorde en frappant un petit garçon qui avait enfreint le règlement. « Alors, quelle explication trouver ?» me demandai-je. Prêchait-il une doctrine pour en pratiquer une autre, ces hommes de Dieu? Si quelqu'un m'avait dit en ce temps-là que ce prêtre fouetteur deviendrait un jour archevêque de Canterbury, je ne l'aurais pas cru un instant. Ce furent ces expériences, je pense, qui firent naître en moi mes premiers doutes sur la religion et même sur Dieu. Si cette personne, ne cessais-je de me répéter, était l'un des représentants élus de Dieu sur terre, alors il y avait vraiment quelque chose qui clochait dans tout le système.